Rapport d'orientation budgétaire, Madame Robin.
Merci.
Il y a un PowerPoint, je crois.
Oui. Donc, présentation du rapport d'orientation budgétaire avec le contexte économique et financier. On va regarder. On va regarder au niveau national une économie française à l'épreuve de la COVID-19, qui a entraîné un recul important du PIB sur l'année 2020 de 8,3%. Aussi, une forte hausse du chômage en France et une dégradation importante du déficit public. Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un plan de relance avec diverses mesures d'urgence, entre autres le report des échéances de crédit, des échéances sociales et le chômage partiel et bien d'autres mesures. Ces mesures ont été confortées en septembre 2020 par la mise en place d'un plan d'urgence sur les années 2021-2022. De 120 milliards d'euros, soit près de 5,2% du PIB, pour soutenir l'activité économique. Le rapport qui vous a été transmis détaille les mesures du plan de relance qui concernent les collectivités territoriales, entre autres la rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc, pour 2020, un ralentissement de l'inflation, une inflation de 6,50%. De plus 0,50%. Inflation prévisionnelle retenue dans la loi de finances pour 2021, 0,70%. Autre élément, un maintien des bonnes conditions de crédit. En 2020, les banques centrales ont abaissé leurs taux directeurs afin d'accompagner l'activité économique durant la période de crise sanitaire. Il en découle que les conditions d'accès au crédit restent très favorables et les taux d'intérêt pour 2021 resteront à un niveau très bas. Un niveau bas. Une consolidation budgétaire retardée. La loi de programmation des finances publiques avait prévu un retour de l'équilibre des comptes publics à fin 2022, avec un déficit à fin 2020 de 1,40% du PIB. Mais suite à la crise sanitaire, le déficit public à fin 2020 s'établit à 11,3% du PIB. Effectivement, le retour à l'équilibre budgétaire à échéance 2022 est inatteignable. Un taux de chômage en hausse. Le taux de chômage national devrait encore se dégrader en 2021 avec une projection à 11% contre 8,8% au troisième trimestre 2020. Toujours lié à la crise sanitaire, les perspectives 2021 en termes d'emploi sont extrêmement pessimistes. Après le contexte national, avec toutes les incertitudes liées à la crise sanitaire, le contexte local, avec les mesures impactant le budget 2021. Stabilité relative de la dotation globale de fonctionnement, sous réserve de l'impact de l'évolution de la population et de l'effet des dispositifs d'écrêtement de la dotation forfaitaire destinée à financer la péréquation. Relevons l'évolution de la population de Mâcon qui s'établit au 1er janvier 2021 à 34 561 habitants contre 34 417 au 1er janvier 2020, soit 144 habitants de plus. La dotation de la politique de la ville est reconduite en 2021. Cette dotation était instaurée en 2018 et son montant est stable à 150 millions d'euros. La reconduction de la dotation de soutien à l'investissement public local et le maintien de l'enveloppe à 570 millions d'euros. La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a instauré des mesures de soutien aux collectivités territoriales dont la compensation des pertes des recettes fiscales et domaniales de 2020 liées à la crise de la COVID-19. La crise sanitaire se prolonge, donc ce dispositif est reconduit en 2021, mais uniquement pour les pertes de recettes fiscales. Une enveloppe de 10 millions d'euros a été fléchée dans la loi de finances pour 2021. Pour compenser les collectivités territoriales, les abandons de loyers consentis aux entreprises du fait de la crise sanitaire. Une compensation à hauteur de 50% des abandons consentis. Pour mémoire, la ville a consenti en 2020 des abandons de loyers pour 282 000 euros. stabilité des FPIG au niveau national. Pour mémoire, depuis 2018, la ville est exonérée de droits car la dotation de car on est éligible à la dotation de solidarité urbaine. Il en découle une économie pour la ville de Mâcon de 71 000 euros. Autre mesure de l'année, la réforme de la taxe d'habitation. Je vous rappelle, depuis 2018, un dégrèvement progressif de la taxe d'habitation sous condition de ressources, à savoir 30% en 2018, 65% en 2019 et 100% à compter de 2020. Depuis fin 2020, les contribuables les plus modestes ne paient plus de taxe d'habitation. Ce dispositif de dégrèvement ne concerne pas les résidences secondaires ni les logements vacants pour lesquels la taxe d'habitation reste applicable. Pour les autres contribuables, une exonération progressive est mise en place avec abattement de 30% en 2021, 65% en 2022 et 100% en 2023. À compter de 2021, les communes ne percevront plus de taxes d'habitation. Une compensation financière sera mise en place par le biais de transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes. Le montant de la part départementale perçue en 2021 sera équivalent au montant de la taxe d'habitation encaissée en 2020. Autre mesure 2021. Selon la loi de finances, la revalorisation des bases fiscales de taxes foncières bâties et non bâties de 1,002%, inflation en fin novembre de l'année précédente, soit un impact sur les contributions directes de 27 000 euros en plus. Adaptation de la taxe d'aménagement. Avec une gestion de la TAM centralisée au niveau de la Direction générale des finances publiques. Un report de la date d'exigibilité à la date d'achèvement des travaux. Une adaptation de l'application de la taxe dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation des sols. Autre réforme importante, celle des taxes sur l'électricité. Avec une mise en place d'une simplification de la gestion des taxes appliquées aux consommations d'électricité, une harmonisation des taux sur 3 années et une mise en place d'un guichet unique à la DGFiP à fin 2023. Autre impact sur le budget 2021, la suppression des taxes à faible rendement. L'État poursuit sa volonté sur la suppression des taxes à faible rendement. La ville sera impactée par la suppression des taxes funéraires sur les convois, les inhumations et les crémations. Il en découle une perte de recettes annuelles d'environ 10 000 euros pour 2021. Autre mesure qui n'a pas d'impact budgétaire direct, l'automatisation de la gestion de FCTVA initialement prévue en 2019 sera mise en œuvre progressivement sur 3 ans, à compter du 1er janvier 2021. Ce dispositif sera applicable à la ville au 1er janvier 2022 sur les dépenses de l'année 2021. Par contre, impact budgétaire, le taux de la FCTVA est maintenu à 16,404% des dépenses d'investissement pour 2021. Au niveau des ressources humaines pour le budget 2021, gel du point d'indice de rémunération, notons la hausse du montant brut du SMIC. Horaire de 0,99% au 1er janvier 2021 et l'application du dernier volet du protocole parcours professionnel carrière et rémunération, soit un impact total estimé à plus de 140 000 euros. Et pour finir, sur les mesures impactant le budget 2021, les coûts liés à la tenue des élections départementales et régionales, plus de 75 000 euros, la poursuite du programme de stagiarisation, plus de 100 000 euros, et l'organisation du temps de travail sera redéfinie courant 2021 afin de répondre aux obligations de la loi du 6 août 2019. Après avoir fait la synthèse du contexte national et des mesures impactant le budget 2021 de la collectivité, un bilan de la situation financière de la ville en 2020. Nous allons commencer par l'analyse des recettes de fonctionnement de la ville. L'analyse des recettes réelles de fonctionnement, avec le poste principal presque 71%, les impôts et taxes, les dotations et participations pour presque 18%, les produits des services et du domaine pour presque 8%, je vous cite que les principaux. Faisons un point plus détaillé sur les impôts et taxes, qui représentent 70,97% des recettes réelles. Elles sont principalement constituées des contributions directes, 21 864 000, de l'attribution de compensation, 15 779 000, versée par la NBA, la taxe additionnelle aux droits de mutation pour 650 000 euros, la taxe d'électricité pour 620 000 euros. Un point plus précis sur les contributions directes, qui représentent 55,60% des impôts et taxes. Elles sont composées de la taxe d'habitation, 35,77% du total, de la taxe foncière sur le bâti, 63,89% du total, presque les deux tiers. La taxe foncière sur le non-bâti, 0,34% du total, qui n'est absolument pas significatif pour notre collectivité. Le tableau qui vous est présenté synthétise les taux des contributions directes applicables à la ville de Mâcon. Je vous rappelle les taux de base en 2001. On peut voir les taux de 2001 pour la taxe d'habitation 15,67%, pour la taxe foncière sur le bâti 24,02% et pour la taxe foncière sur le non bâti 31,06%. On peut voir une hausse maîtrisée de 3% sur 19 ans. Après avoir analysé le poste principal impôts et taxes, qui représente 71% des recettes réelles de fonctionnement, analyse du deuxième poste le plus important, les dotations et participations, qui représentent 17,83% des recettes réelles. On retrouve la dotation globale de fonctionnement pour presque 52%, la dotation de solidarité urbaine pour plus de 24%, les compensations de l'État pour presque 14%. La dotation globale de fonctionnement est prédominante dans le total des dotations et participations. Elle représente près de 52% des dotations pour 2020. Depuis 2014, la perte cumulée s'établit à plus de 16 millions d'euros de dotations en moins pour la ville de Mâcon. À noter toutefois qu'il est constaté depuis 2017 une stabilité dans la baisse des dotations de l'État. Le dernier poste que nous allons analyser est les produits des services et du domaine, qui sont principalement constitués des refacturations internes budget pour 36,41%, c'est les refacturations internes du personnel. Les redevances du service public pour 21,65%, principalement les restaurants scolaires, garderies, activités périscolaires. Les droits de stationnement pour 20,08%. Les ventes des produits finis 13,38%. Et les autres produits divers pour 8,46%. Nous avons terminé la présentation des recettes de fonctionnement de la ville. Maintenant, les dépenses de fonctionnement. Les dépenses réelles de fonctionnement s'analysent comme suit. On retrouve les charges de personnel, dépenses principales, avec presque 57%. Les charges à caractère général pour presque 27%. Et les autres charges de gestion courante pour un peu plus de 12%. Analyse des charges principales, dont les charges à caractère général, qui représentent 26,67% des charges réelles. Elles s'établissent au budget principal 2020 à 13 772 000 euros. Elles correspondent aux frais généraux des services et sont composées pour plus du quart des dépenses de suite, poste difficile à maîtriser. Les dépenses de suite étaient un élément important des charges générales. La collectivité essaye de les optimiser au mieux par l'efficience de l'achat public. La poursuite de la modernisation du chauffage urbain. Tous les ans, il y a des réinvestissements. L'investissement dans les équipements moins énergivores, comme l'éclairage public et les végétaux. La rénovation thermique des bâtiments. Maîtrise de ce poste de dépenses sur la période 2014-2020. Évolution de 0,32% sur la période. La ville continue d'investir régulièrement pour essayer de maîtriser ce poste de dépenses comme on le verra plus tard, modernisation de l'éclairage public avec objectif d'un gain de 75% des consommations électriques. Autre poste importante, c'est 57% des charges réelles de fonctionnement, les charges de personnel. Elles constituent la principale charge du budget de fonctionnement. Elle s'élevait au budget principal 2020 à plus de 29 321 000 euros, soit presque 57% des charges réelles de fonctionnement. L'évolution entre 2019 et 2020 s'explique par l'adhésion au CNAS. Une bonne maîtrise des charges de personnel malgré l'évolution réglementaire. Poste suivant, les autres charges de gestion courante qui représentent un peu plus de 12%. Elles sont constituées de la contribution aux services d'incendie, plus de 25%, des subventions allouées aux associations, plus de 44%, des subventions diverses, dont celles allouées au CCAS, plus de 16%. L'équipe municipale a souhaité maintenir ses concours aux associations car elles sont essentielles au bien vivre à Mâcon et créatrices de liens sociaux sur la ville. Malgré la crise de la Covid-19, la municipalité a maintenu en 2020 ses concours aux associations mâconnaises. Pour terminer l'analyse des principaux postes de dépenses, les charges financières, qui représentent 1,71% des charges réelles. Elles intègrent les charges d'intérêt liées à l'encours de dette, une provision pour hausse des taux des charges financières prudentielles, ainsi qu'une enveloppe en intérêt pour les nouveaux emprunts à souscrire sur 2020. On note une bonne stabilité des charges financières. Après analyse du fonctionnement, place à l'investissement, avec un investissement dynamique. Pour rappel, les investissements réalisés de 2001 à 2020, avec un volume d'investissement de plus de 293 millions d'euros, qui s'analyse comme suit. Vous pouvez voir le niveau d'investissement par année porté par la ville depuis 2000, soit un volume moyen annuel de plus de 14 millions d'euros. Les équipements emportés sur l'ensemble du secteur de la collectivité, le sport, la culture, l'habitat, le commerce des centres-villes, l'économie, le patrimoine, la voirie, l'accessibilité, le tourisme, transformant et renforçant l'attractivité de Mâcon. Soit porté directement par la ville, mais aussi en partenariat avec les acteurs institutionnels, locaux ou des structures privées. Ces investissements ont été portés sans obérer l'endettement de la ville et avec la recherche toujours active des subventions. Justement, l'endettement de la ville. Eh bien, en fin 2020, l'encours de dette s'établit à 53 810 000 euros, intégrant le financement intégral du programme de renouvellement du parc éclairage public, 11 millions d'euros, justifiant l'évolution de l'encours à fin 2020. Il est composé pour 94% d'emprunts à taux fixe et 6% d'emprunts à taux variable. Notre dette ne compte pas d'emprunts classés à risque et nous avons un taux moyen de 1,68% contre 1,75% en 2019, particulièrement satisfaisant. Par ailleurs, les investissements réalisés ont été financés à près de 21% par des subventions octroyées par l'État, la région, le département et d'autres partenaires. Elles s'établissent à presque 61 millions d'euros. Une présentation des subventions d'investissement encaissées de 2001 à 2020. Je vous laisse prendre connaissance de ce graphique. Pour compléter le niveau des subventions reçues par la ville de Mâcon, par habitant, s'établit à 94 euros contre 74 euros pour les collectivités de la même strate, base des données financières relatives au compte 2019 publié par la DGCL. Cet écart démontre bien la dynamique de la ville de Mâcon en matière de recherche de financement externe, élément essentiel à la réussite de la mise en œuvre de son programme d'investissement. En synthèse de présentation financière de la ville à fin 2020, un focus tout particulier sur les grands équilibres financiers de la ville, qui sont son épargne brute, son épargne nette et sa capacité de désendettement. Le tableau qui vous est présenté synthétise les critères précédemment évoqués. Et une épargne brute très bonne à fin 2020, idem pour l'épargne nette, ainsi que la capacité de désendettement. Comme vous pouvez le voir, à fin 2020, notre capacité de désendettement est particulièrement satisfaisante, puisqu'elle s'établit à 4,5 années. Je vous rappelle qu'une collectivité est placée en bonne situation financière dès lors que sa capacité de désendettement est inférieure à 8 années. Et pour conclure, il est à noter un taux d'épargne brute presque 21% en 2020, exceptionnellement élevé malgré la crise suite à la non-réalisation de certaines dépenses. Après cette analyse de la situation financière de la ville à fin 2020, les grandes orientations retenues pour le budget principal en 2021. En premier, la sécurité, un engagement fort avec consolidation de la sécurisation des rues et quartiers par le renforcement de la présence de la police municipale avec le recrutement de 2 agents supplémentaires en 2021, l'équipement de la brigade municipale de caméras piétons, la poursuite du maillage du dispositif de la vidéoprotection sur le territoire communal, le maintien de la présence de la brigade équestre. Deuxième point fort, l'emploi, signe de dynamisme et de socialisation. En partenariat avec MBA, poursuite des actions de prospection afin d'attirer de nouveaux acteurs économiques sur le bassin de vie. Développement des zones économiques et soutien de projets novateurs tels que Saône Digital, la Cité des Vins, l'autoroute ferroviaire, pour citer que les principaux. Accompagnement économique des entreprises par intermédiaire d'un programme d'investissement important qui a un soutien à l'emploi et à l'activité des entreprises. Et la poursuite du programme d'aide aux entreprises rencontrant des difficultés financières liées à la crise sanitaire, abandon de loyers et autres redevances. Autre orientation pour le budget 2021, l'amélioration du cadre de vie, avec redynamisation du centre-ville et de l'amélioration de la qualité de son habitat, par la poursuite de l'OPH, lancée en 2019 et planifiée jusqu'en 2024, permettant une adaptation des logements aux souhaits des usagers, tout en sauvegardant les spécificités architecturales de Mâcon. La mise en place d'un site patrimonial remarquable sur le territoire du centre-ville, aux fins de protéger les recherches historiques, archéologiques, artistiques. La poursuite de l'ORI, lancée en 2017, programme s'étalant sur 7 ans, ayant aussi pour objectif de moderniser des logements de centre-ville pour les rendre plus attractifs. Aussi, avec le soutien et le développement de l'activité commerciale en hypercentre, par la poursuite du programme Cœur de Ville, en partenariat avec l'État, l'accompagnement des commerçants par des aides directes dans le cadre de projets de modernisation, rénovation de leur commerce. La poursuite du programme CISAC, en partenariat avec l'État, pour objectif de participer au développement de l'attractivité du commerce. La reconduction du soutien financier aux associations de commerçants qui œuvrent à la dynamique du centre-ville. Le recrutement d'un manager centre-ville dont la mission sera d'aider, de conforter les commerçants installés, mais aussi de prospecter afin d'attirer de nouveaux commerces, dont de grandes marques. Et pour terminer sur le thème de l'amélioration du cadre de vie, le renforcement de l'attractivité de la ville par la programmation d'aménagements structurants tels que l'îlot des Minimes avec l'extension des halles marchandes, l'aménagement de la place aux herbes, le nouveau projet en rue sur le quartier La Chanet Résidence. Des collaborations avec des partenaires privés pour mener à bien des projets immobiliers de grande envergure, tels que l'Or Royal, la réhabilitation du couvent de la Visitation, l'immeuble Soufflot. Autre thème important pour l'équipe municipale, un développement durable, dont divers programmes 2021 s'inscrivent dans cette démarche. La révision du PLU avec 3 grandes orientations, la relance de la croissance démographique, une économie dynamique avec un développement urbain favorable à une bonne qualité de vie dans un environnement préservé, des aménagements paysagers respectueux de l'environnement, la poursuite de l'aménagement des déplacements doux pour renforcer la place des déplacements non motorisés et améliorer le maillage du territoire. le développement des navettes gratuites de transport urbain en concertation avec MBA, l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les parcs de stationnement en ouvrage en accord avec la société gestionnaire du parc, la poursuite du programme de renouvellement de l'éclairage public devant conduire à terme à une économie de 75% des consommations électriques et l'implantation d'un parc photovoltaïque sur le site de la Grivière. La poursuite des programmes de mise en accessibilité des voiries et bâtiments communaux, la planification de travaux économiques d'énergie sur les bâtiments scolaires et la revégétalisation de l'espace public au cœur des priorités dans les projets d'aménagement portés par la ville. Autre grande priorité, l'animation de la ville. Après une année 2020 profondément marquée par la cristallisation de la vie culturelle et sportive, il est prévu en 2021 une programmation riche de qualité, ouverte au plus grand nombre et gratuite autant que possible. La reconduction des grands rendez-vous annuels, fête de la musique, l'été frappé, compte et lumière, les représentations de l'orchestre, Macon prend ses quartiers d'été et encore bien d'autres, la ville confortera son soutien aux associations culturelles et sportives afin de leur permettre de reprendre leur complète activité à la sortie de la crise. L'équipe municipale s'engage aussi au maintien de la cohésion sociale, renforcer la dimension humaine, être à l'écoute de chacun et ne laisser personne au bord du chemin sont des priorités de l'équipe municipale. Aussi, la ville poursuivra et développera ses actions et animations en faveur des seniors, petits travaux à domicile, portage des repas, mais aussi auprès des jeunes, programmes de réussite éducative, permis citoyen, stage, contrat aidé, apprentissage, mais aussi auprès des personnes en situation précaire ou désocialisées, secours, aide matérielle. Maintiendra ses aides au CCAS ainsi que celles apportées aux associations maconnaises œuvrant dans le social. Reconduira son soutien exceptionnel à destination des associations maconnaises œuvrant auprès des publics les plus fragiles. Et poursuivra la création de structures d'accueil telles que le foyer dans le quartier des Sougeresses, l'extension du centre social Mosaïque, qui sont de véritables lieux de vie et d'échange pour les habitants. Engagement fort défendu depuis 2001, la maîtrise des dépenses de fonctionnement. Le tableau vous montre la projection des dépenses pour 2021. Selon les points évoqués précédemment, cette maîtrise passe par la mise en œuvre d'une politique systématique de recherche d'économie afin de dégager des capacités à investir, mais aussi par la gestion attentive des dépenses de fuite qui représentent plus de 25% des charges générales. Par l'optimisation de l'achat public, réorganisation des méthodes de travail et programmes d'investissement ciblés sont autant d'outils utilisés afin de générer des économies futures. La maîtrise des charges générales des services est indispensable afin de dégager des marges de manœuvre et un autofinancement durable. Projection de baisse de 2,3% pour 2021. Autre élément important des charges de fonctionnement, il s'agit de la maîtrise des dépenses de personnel qui représente 57% des dépenses réelles. Comme vous pouvez le voir, la projection des dépenses de personnel pour 2021 laisse entendre une quasi-stabilité de celle-ci par rapport en 2020. Cela passe par la poursuite d'une gestion rigoureuse des dépenses de personnel menée depuis plusieurs années qui s'accompagne d'une adaptation des procédures de travail du service pour une plus grande efficience. Notons le maintien des budgets alloués à la formation du personnel, à la prévention des risques et à l'amélioration des conditions de travail, gage d'une qualité de service public. Autre engagement fort de la municipalité depuis 2001, la stabilité des concours au tissu associatif. Attachement de la ville à préserver la richesse du tissu associatif mâconnais ainsi que sa vitalité. Poursuite en 2021 du soutien tant financier que logistique de la ville auprès des associations locales. Et reconduction du dispositif mis en place en 2020 de soutien financier exceptionnel de la collectivité auprès des associations directement impactées par la crise sanitaire. Comme pour les années précédentes, la ville maintient ses tarifs dits sociaux en 2021. Le tableau qui vous est présenté qui vous est projeté, présente des projections de recettes pour 2021 dans l'hypothèse de la poursuite de la crise sanitaire. Les produits des services représentent moins de 10% des recettes réelles et sont constitués pour près du tiers des refacturations interbudgétaires et pour près de 10% de recettes de services dits sociaux. Reconduction stricte des tarifs des services à caractère social, qui englobe les restaurants scolaires, les garderies périscolaires, les musées, la médiathèque, afin de permettre l'accès aux services au plus grand nombre. En cohérence avec les engagements de la collectivité, poursuite de l'aménagement structurant de la ville, le plan d'investissement pour 2021 est de l'ordre de 42 millions d'euros. C'est un programme d'investissement volontariste et strictement proportionné aux capacités d'endettement de la ville. Un programme qui s'inscrit dans de nouveaux contrats proposés par l'équipe municipale élue en mars 2020. Et c'est un programme garantissant un cadre de vie de qualité, un dynamisme et une attractivité à Mâcon, tant en préservant l'environnement. Ce programme est mis en œuvre avec un financement maîtrisé qui s'établit comme suit. Avec le fonds de compensation de la TVA pour 1 845 000, les amendes de police pour 150 000 euros, les subventions d'investissement au fonds de concours pour 3 456 000 euros, une enveloppe de finances extérieures d'environ 5 900 000 euros et un autofinancement important qui s'établit à presque 31 millions d'euros. Le financement du programme d'investissement est prévu avec une recherche toujours aussi active de subventions afin d'optimiser le financement du programme envisagé et un recours à l'emprunt strictement limité au montant remboursé au cours de l'exercice. Et pour conclure, les orientations 2021 prévoient une stabilité de la fiscalité locale. En effet, soucieuse de garantir le pouvoir d'achat des Mâconnais et compte tenu des optimisations de charges mises en œuvre par la collectivité, l'équipe municipale entend stabiliser ses taux de fiscalité pour 2021. Notons toutefois des incertitudes portant sur la fiscalité ménage du fait de la mise en œuvre de l'abandon de la taxe habitation et des modalités de compensation de celle-ci par l'État. Voilà pour la présentation des orientations budgétaires pour le budget principal et les orientations de gestion restent applicables pour les budgets annexes que je vais maintenant vous présenter. Donc les budgets annexes. Nous allons donc vous présenter leur situation financière à fin 2020. Avec tout de suite un focus sur le budget annexe opérations industrielles et commerciales. Tout d'abord, l'analyse des recettes réelles de fonctionnement. Donc on retrouve les produits des services et du domaine pour 44,86%, les produits exceptionnels pour 55,14%, constitués principalement des ventes foncières. Après avoir analysé les recettes réelles, analyse des dépenses réelles de fonctionnement, qui sont constituées principalement des charges à caractère général pour 71,74%. Donc c'est les coûts des entretiens, des fluides et de la taxe foncière. Des charges financières pour 27,59%. Des charges exceptionnelles pour 0,66%. Pour conclure sur la situation financière 2020 du budget opérationnel industriel et commercial, un zoom sur l'endettement au 31 décembre 2020 avec un encours de dette de 8 027 000 euros. Composé pour 90% d'emprunts à taux fixe et 10% d'emprunts à taux variable. Cet encours ne compte pas d'emprunts classés à risque et le taux moyen de la dette pour 2020 est de 1,23%. Maintenant, analyse de la situation financière du budget annexe équipement touristique et de loisirs. Avec l'analyse des recettes réelles de fonctionnement qui sont constituées des produits, des services et du domaine pour 82,85%. Recettes des activités telles que le camping, le port de plaisance et le centre équestre. Des produits exceptionnels pour 15,19%. Autres produits de gestion courante 1,21% et des subventions d'exploitation pour 0,75%. Après avoir analysé les recettes, analyse de la composition des dépenses réelles de fonctionnement avec Des charges à caractère général, 51,45%. On retrouve les flux des dépenses d'entretien, et d'assurance. Les charges de personnel, 41,64%. Refacturation du personnel via le budget principal. Pour vous citer que c'est plus important. Et pour conclure, un zoom sur l'endettement au 31 décembre 2020 du budget équipement touristique et de loisirs, avec un encours de dette de 5 696 000 euros, qui est composé pour 92% d'emprunts au fixe et 8% d'emprunts au variable. Cet encours ne compte pas d'emprunts cassés à risque et le taux moyen de la dette pour 2020 est de 0,83%. Après avoir analysé la situation financière des deux budgets annexes, les grandes orientations retenues pour ces budgets en 2021. Pour le budget annexe opérations industrielles et commerciales, les orientations 2021, le transfert de la gestion de la cité de l'entreprise à MBA au 1er janvier 2021, le projet d'extension des équipements mis à disposition de l'association du Jardin de Cocaille, la reconduction du projet de cession du bâtiment de la discothèque, et la prévision de reconduction des aides économiques au tissu économique dans le cadre de la crise sanitaire. Et pour conclure les orientations 2021 pour le budget annexe équipement touristique et de loisirs, des prévisions de recettes sur la base du réalisé 2020 pour les équipements les plus impactés par la crise sanitaire, le camping et le centre équestre. Le projet de réhabilitation de la toiture du bâtiment d'accueil et de restauration au port de plaisance, la réalisation de la sécurisation des pontons et doublement des bornes électriques au port de plaisance. Les études préalablement de la reprise des berges ACC du port de plaisance et la prévision de reconduction de l'accompagnement des activités commerciales impactées par la crise. Et bien maintenant, place au débat.
Merci pour ce rapport très complet. Des questions, des observations ? Allez-y.
Suite à la lecture de ce rapport d'orientation budgétaire, je me permets une intervention sur le volet développement durable. Je suis interpellée par plusieurs points. Tout d'abord, parce que vous entendez par ce terme développement durable souvent utilisé de façon abusive et réduite. En effet, initialement, le développement durable comprenait un volet social, un volet économique et un volet environnement. Aujourd'hui, on délaisse un peu ce terme pour utiliser plus facilement les termes de transition écologique. Mais peut-être ce dernier est-il trop fort pour la ville de Mâcon. En effet, que peu d'ambition sur ce sujet. Pourtant, la ville de Mâcon et l'ensemble des Mâconnais méritent mieux et plus. Peut-être d'ailleurs aimerait-il être impliqué. À la lecture de ces quelques lignes sur votre point développement durable, aucun projet avec des habitants, des associations n'apparaît. Comment est-ce possible d'orienter résolument Mâcon dans un développement durable de son territoire sans associer les habitants qui font la ville ? Vous êtes engagé au travers de divers projets, comme le remplacement des éclairages publics de la ville, l'installation de bornes de recharge électrique, la mise à disposition d'un site pour produire de l'énergie solaire, les navettes gratuites, et comme je le disais lors du dernier conseil municipal, nous nous en réjouissons. Mais je n'oserais dire pour autant que Mâcon est résolument orienté dans un développement durable de son territoire, même quand je lis dans le rapport un paragraphe de 6 lignes sur le label 4 fleurs. Certes, le service des espaces verts fait un travail remarquable pour fleurir notre ville, et c'est beaucoup de plaisir pour les yeux, mais le lien avec l'environnement n'est pas évident. Vous citez avoir conscience de l'impact négatif de la voiture sur l'environnement, alors que pour aller voir la Saône depuis le cœur de ville, on se heurte à une autoroute de voitures sur la départementale 906, et vous projetez pour 2021 uniquement la poursuite de l'aménagement cyclable d'une rue de SNC, alors qu'il y a sur l'ensemble de Mâcon de nombreux points noirs et très peu de continuité dans les aménagements cyclables. Je n'irai pas plus loin qu'à votre rapport est succinct et la liste des projets à co-construire serait longue. J'ajouterai très juste, ayons le courage et la volonté de réfléchir ensemble et de nous inspirer d'autres communes pour faire de Mâcon une ville respectueuse de son environnement comme nous le souhaitons tous ici. Merci.
Merci. Moi, je voudrais vous interpeller sur une phrase qui est présente à la page 29 de ce ROB, à savoir être à l'écoute et ne laisser personne sur le bord du chemin. C'est une expression qui m'a interpellé parce que régulièrement, je sillonne les rues de la ville et souvent, je viens à la rencontre des usagers des transports en commun. La plupart du temps, des femmes avec ou sans enfants, avec ou sans cabas. Souvent, là, à attendre des bus qui passent quasiment vides. Des temps d'attente interminables, me disent-elles. Surtout l'hiver, et souvent un chemin de croix pour traverser la ville de part en part. Alors ce problème-là, il ne concerne pas cette assemblée. Je serais d'ailleurs très curieux de voir combien parmi nous prennent le bus dans cette salle. Que dire à ces gens? Un peu de patience, la ligne numéro 2 de la navette gratuite Est-Ouest va être mise en place. Mais d'abord, place à l'étude. Ne vous inquiétez pas, le réseau va être refondu en 2024, en 2025, ou peut-être une nouvelle promesse de campagne pour les municipales de 2026. Va-t-il falloir attendre encore 3 années, alors que la situation doit être traitée dans l'urgence? Monsieur le maire, 1 an après l'installation de la nouvelle équipe municipale, rien ne bouge. Enfin si, la ligne spéciale qui conduisait les jeunes footballeurs sur le site de la Grisière a été supprimée. Et pourtant, elle rendait des services à plus d'un enfant, à plus d'une famille et à plus d'une maman sans permis. Une note positive cependant, qui laisse de l'espoir, cette année 2020 a vu la mise en place d'une 3e navette de Saint-Clément vers les cinéma Rivaux. Une belle bouffée d'oxygène. Là, oui, voilà un vrai service public, monsieur le maire. Et les Mâconnais l'apprécient. Alors, je laisse de côté ce problème de transport qui a été débattu lors du dernier conseil communautaire et qui est de la compétence MBA. Mais je voudrais continuer à m'intéresser toujours à ces mêmes gens modestes qu'on laisse sur le bord du chemin, ou plutôt qu'on relègue dans leur ghetto, isolés, et ce, bien avant la crise sanitaire. Lors des événements violents qui se sont produits cet hiver à Mâcon, le conseil municipal du 14 décembre dernier ne dit pas un mot de ces incidents, comme si c'était des zones qui ne comptaient pas. La commission préparatoire sur les vies de quartier, qui s'est tenue il y a une quinzaine de jours, nous annonce un seul point à l'ordre du jour. Un seul. Assez révélateur de ce qui se passe dans nos quartiers, dans ces endroits abandonnés, c'est-à-dire rien. On passe sous silence les problèmes, ou on les met sous le tapis, jusqu'au jour où ils nous explosent à nouveau au visage, comme il y a encore une dizaine de jours aux Blanchettes. Alors cette violence urbaine, elle n'est pas à déconnecter de la souffrance sociale qui existe, vous le savez bien. Les 14-25 ans, complètement désœuvrés, on nous le dit, à chaque contact avec la population, on nous le dit à chaque fois, nos jeunes sont désœuvrés. Alors comment occuper ces enfants? Comment s'en occuper? La réponse qui a été donnée lors d'une commission de préparation du conseil municipal, c'est « la ville ne peut pas tout gérer, c'est le rôle des parents ». Alors que dites-vous à ces parents qui interdisent purement et simplement à leurs ados de sortir dans leur quartier, je pense aux Blanchettes, de sortir en journée? L'extérieur est devenu infréquentable. Que dites-vous à cette mère de famille qui travaille jusqu'à 22h30 et qui a un jeune à la maison? D'autres réponses que vous apportez, ce sont celles des caméras. Alors là, on déplace les problèmes alors qu'on pourrait les traiter en amont par de la prévention, de l'éducation, de l'accompagnement. Alors, nous avons bien compris que médiateurs, éducateurs, animateurs ne font plus partie de votre langage. Mais pourtant, la présence humaine, elle est inévitable. Alors, je salue le retour de la brigade équestre. J'espère revoir la brigade cycliste que j'ai rencontrée l'été dernier. Je salue la présence de policiers piétons au contact de la population. Oui. Je voudrais poursuivre, si vous permettez, sur une autre frange de la population qui est oubliée. Ce sont ce qu'on appelle les allophones, les primo-arrivants. Ce sont pour beaucoup des citoyens européens et ils sont de plus en plus nombreux. Ils arrivent dans la ville livrés à eux-mêmes, aucun accompagnement, avec le lourd handicap de la langue, comme vous pouvez vous en douter. Il faut trouver un logement, résoudre, accomplir les nombreuses tâches administratives, scolariser leurs enfants et trouver, heureusement, un petit peu de repère à l'école. Une école, comme vous le dites, qui a été aussi ravagée par la crise sanitaire, avec un décrochage scolaire qui a été accru. Mais ça n'a pas empêché, monsieur le maire, votre équipe et vous-même, de ponctionner les crédits qui étaient alloués aux écoles en 2020, de 20%, je le rappelle. Et puis, je vais en finir là, parce que j'ai l'impression d'être un petit peu long, pour parler un petit peu de l'emploi, qui n'est pas des moindres importances. Quel diagnostic a été fait dans les quartiers pour essayer de répondre aux problèmes de nos quartiers, aux problèmes de l'emploi? Que leur proposez-vous pour que chacun trouve sa place dans la société, comme vous le dites à la page 25 du rapport? Eh bien, on aurait bien quelques pistes, comme le développement de l'économie sociale et solidaire, l'économie du recyclage. J'en dirai pas plus, je vous renvoie au programme de ma concitoyen. Pour conclure, j'ai l'impression que ce robe nous renvoie une image, une triste image, à savoir que le budget de la cohésion sociale méprise les gens modestes. Alors que vous avez de belles marges de manœuvre. Alors je vais vous poser juste une petite question, monsieur le maire, vous pouvez y répondre ou ne pas y répondre. C'est pensez-vous réellement qu'il n'y a plus rien à faire dans nos quartiers? Avez-vous réellement baissé les bras? Merci de votre attention.
Alors pour compléter ce qui vient d'être dit, je veux insister sur l'absence d'analyse et de prise en compte du contexte local dans ce rapport, qui se décline en quatre parties, dont la première, c'est pourtant l'analyse du contexte économique et financier. C'est inquiétant. En effet, rien sur l'impact économique de la pandémie sur les Mâconnaises et les Mâconnais. Ce n'est qu'à la moitié du rapport que sont évoquées les conséquences des mesures de confinement, et ce ne sont que 6 lignes pour évoquer succinctement un bouleversement social, économique, sociétal en cours depuis bientôt 1 an. Et aucun chiffre sur le chômage à Mâcon, sur la pauvreté. Pourtant, c'est là que nous attendent nos concitoyens. Ils attendent de leurs élus des services et projets qui amélioreront leur quotidien. Ce rapport montre donc votre incapacité à adapter le budget 2021 aux conditions socio-économiques présentes. En effet, les investissements en matière de cohésion sociale ne représenteront que 2,5% du budget d'investissement, c'est indigent. Le développement durable, avec 4,52%, fait également figure de parents pauvres. Et ce n'est pas le programme de renouvellement du parc d'éclairage public qui va masquer ce qui n'est pas entrepris par ailleurs. En fait, ces domaines sur lesquels les investissements devraient être renforcés sont les plus faiblement dotés. Et parallèlement à cela, les dépenses de fonctionnement sont contenues, alors qu'il faudrait développer les services aux usagers. Alors, cela d'autant plus que nous en avons les moyens. 2020 est aussi une année exceptionnelle à ce titre. C'est plus de 11 millions d'excédents de fonctionnement qui n'ont pas été utilisés au service des contribuables. Pourtant, à l'heure des confinements et déconfinements, les Mâconnais avaient des besoins auxquels vous auriez dû répondre. Par exemple, maintenir puis renforcer le soutien à la scolarité par la continuité du dispositif de programme de réussite éducative ainsi que l'accompagnement à la scolarité. Plutôt que cela, vous allez préférer poursuivre votre politique du bas de laine, qui pèse près de 31 millions d'euros. Et c'est ainsi que ces 11 millions iront alimenter la section d'investissement, à l'identique de ce que vous faites depuis plusieurs années. L'investissement réalisé n'est que le quart de ce qui est indiqué au budget prévisionnel. Ce qui ne vous empêchera pas pour autant d'emprunter 5,9 millions en 2021, car comme vous le dites sans cesse, il faut emprunter maintenant, car les taux sont bas. Mais pourquoi faire ? Ainsi, en 2021, vous prévoyez 42 millions d'investissements, mais combien seront finalement réalisés sur cet exercice ? Pour rappel, en 2020, 34,6 millions étaient prévus et seuls 15 millions furent réalisés. Et vous ne pouvez prétexter le contexte sanitaire car le budget a été voté fin juin. Vous saviez donc pertinemment que tout ne serait pas réalisé. Alors, mesdames, messieurs, pourquoi cela mérite-t-il d'être relevé ? Pourquoi cela pose-t-il problème ? Simplement parce que c'est une mauvaise gestion des ressources de la collectivité. Et ce qui fut dénoncé par la Cour régionale des comptes au sujet de l'agglomération le sera sans doute aussi pour Mâcon. Ces montants pléthoriques prévus en investissement vous permettent de justifier d'une part le transfert en section d'investissement de ce qui n'a pas été dépensé utilement en fonctionnement, et d'autre part le maintien du taux de la taxe sur le foncier bâti alors même que les propriétaires occupants ou bailleurs n'arrivent plus à entretenir leurs biens du fait de la vacance locative. Ainsi, vous pourriez à la fois accroître les services aux administrés, et vous pourriez le faire pour 2021. C'est économiquement possible et humainement souhaitable. Et baisser le taux de la taxe sur le foncier bâti de 2,28, ramenant ainsi la fiscalité locale à la moyenne de la strate. Au contraire de cela, les services dont les usagers ont besoin ne seront pas déployés. Par exemple, du personnel pour mettre en œuvre des dispositifs éducatifs et de loisirs en direction des enfants et de la jeunesse dans tous les quartiers de la ville. Alors que les associations sont contraintes par la crise sanitaire, la jeunesse doit pouvoir trouver dans les dispositifs villes des lieux et temps de socialisation alternatifs. Ce peut être aussi une façon complémentaire d'œuvrer pour la tranquillité des habitants. L'octroi de crédits supplémentaires pour les CCAS, dont les subventions n'ont pas progressé depuis 2014 et dont les besoins sont accrus, permettrait un soutien aux ménages en difficulté. En matière de mauvaise utilisation des ressources, nous dénonçons également la stabilité de l'aide au tissu associatif qui est en fait en diminution. Et on est en droit de se demander qui va faire les frais de cette baisse. L'éducation populaire pourrait être sacrifiée. L'animation se substitue à la culture et c'est un signal bien inquiétant que peu d'ambition dans ce domaine. Pourtant, l'appel à projet quartier culturel créatif permettrait de renouveler l'offre qui a besoin d'un nouveau souffle. Dans les domaines de l'emploi, du logement et particulièrement pour la jeunesse, aucune ambition de travail collaboratif notamment avec l'aile Sud-Bourgogne, aucune ambition pour le point information jeunesse, pas de renfort envisagé de la prévention spécialisée. Encore une fois, vous ne faites aucun lien entre les troubles de l'ordre du dernier trimestre 2020 et votre engagement et votre désengagement éducatif, social et culturel dans les quartiers. Vous laissez penser que l'échelon des collectivités le plus proche des habitants, c'est-à-dire notre échelon, l'échelon municipal, est impuissant. De nouveau, aucune prise de conscience de l'urgence d'agir. Alors même que le plan de relance et les dispositifs d'accompagnement sont une opportunité à saisir, vous n'offrez aucune visibilité sur ce qui pourrait être mis en œuvre. Ce pourrait être une occasion d'accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics, d'accroître beaucoup plus significativement la part de produits issus de l'agriculture biologique et locale pour les repas produits par la cuisine centrale, de repenser les actions de soutien à l'économie de proximité, ainsi que les opérations d'aménagement commercial en centre-ville, favoriser l'inclusion numérique, engager la réflexion sur l'agriculture urbaine et, évidemment, d'accompagner tout cela avec le personnel municipal dédié. Vous semblez ne vouloir saisir aucun des dispositifs d'accompagnement prévus, alors même qu'ils correspondent sans doute aux besoins et aux aspirations des Mâconnais. Aucun de ces thèmes ne vous semble donc pertinent pour eux. De nouveau, ce sont les Mâconnais d'aujourd'hui qui payent les hypothétiques investissements de demain, sans bénéficier des services publics dont ils ont besoin maintenant. Alors, Mâcon, la ville aimée, les Mâconnais ont besoin de preuves.
Bien, je vais dire un petit mot rapide, parce que, en fait, il y a une grosse différence entre vous et moi. Vous, vous dépensez l'argent que vous n'avez pas, et moi, je mets de l'argent de côté et je le dépense après. La conclusion de 20 ans de mandat aujourd'hui, et j'en suis fier, c'est que le budget de la ville de Mâcon, malgré de nombreuses crises, malgré de nombreuses difficultés, est en excédent. La conclusion du budget de Mâcon de 20 ans, c'est que j'ai un peu moins de 5 ans de remboursement de la dette. Beaucoup de communes, vous avez pu voir dans le journal, je ne dirais même pas la classification politique, mais regardez dans le journal les premières déclarations des maires pour les robes. 8 ans, 9 ans, 10 ans, et on dépasse même pour certaines le cap de 11 ans dont les cours des comptes considèrent qu'on est au seuil d'alerte. Nous, mes chers collègues, il y a 20 ans qu'on est là, les premiers emprunts que j'ai faits depuis 15 ans sont déjà remboursés, et on est à moins de 5 ans. Aujourd'hui, on n'a pas augmenté les impôts. Aujourd'hui, on n'a jamais baissé, nous, ici, les subventions, contrairement à ce que vous dites, Madame Conté-Sorabella. On n'a jamais baissé les subventions aux associations. Il y a 4 ans en arrière, alors vous n'étiez peut-être pas tout à fait attentif, n'étant pas le leader de la petite opposition ici, mais il y a 4 ans, un certain nombre de communes ont baissé de 25 à 30% les subventions aux associations. La ville de Mâcon ne l'a pas fait. On a continué à aider le tissu associatif. Et on l'a aidé avec des prêts de matériel qui nous étaient demandés par les présidents d'associations. Alors bien sûr, ce n'est pas une subvention directe, mais ça leur permet bien évidemment d'organiser un certain nombre de manifestations et de pouvoir vivre. Ils nous ont demandé aussi, les associations, de leur apporter des conseils. On l'a fait. Ils nous ont demandé, ces associations, de rénover les bâtiments, de faire que, pour le sport, les gymnases soient plus confortables. On en a quand même réparé 3. On a mis toutes les installations sportives, j'allais dire, à flot, y compris d'ailleurs le port, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais tout ça, on l'a fait en gardant un certain nombre d'objectifs. L'objectif numéro 1, c'était on n'emprunte pas plus que l'on rembourse. Même le rapport de la Cour des comptes, le dernier que nous avons eu, le signalait. Je pense que le nouveau rapport de la Cour des comptes qu'on aura le re-signera aussi. Ce qui fait que si on regarde bien, notre montant d'emprunt a baissé de 30% puisqu'il est identique à celui que j'ai trouvé en 2001 avec un certain nombre de collègues qui sont ici. Le coût de la vie a augmenté de 30%. Si le montant de l'emprunt est identique, ça veut dire que le montant de nos emprunts a réellement baissé de 30%. Je ne connais pas beaucoup de villes qui l'ont fait. Et puis, vous pouvez regarder ici aussi qu'on a un taux d'autofinancement qui nous permet justement de lancer des grands programmes d'investissement. Alors, je veux bien que, mais c'est le rôle de l'opposition, d'aller expliquer qu'on ne fait rien dans le cas domaine, qu'on ne sait pas gérer, qu'on n'a jamais fait d'environnement, qu'on n'a rien fait. Dont acte. Je citerai quand même quelques exemples qui montrent qu'effectivement, on n'a rien fait, que les sommes sont tout à fait négligeables lancées. Dans le domaine de l'environnement, on lance la rénovation totale de l'éclairage public. Une bagatelle. Entre 9 et 10 millions d'euros d'investissement pour une baisse de 75% de la consommation électrique. Bien sûr, vous me direz que ce n'est pas de l'environnement. Mais ce n'est pas du tout, ce n'est pas vrai. D'améliorer les conditions de l'esthétique de la ville, ce n'est pas de l'environnement naturellement non plus. Le chauffage urbain, on n'en parle pas, mais je vais rendre aussi encore une fois hommage à Gérard Collomb. C'est un dossier extrêmement compliqué qu'il a lancé il y a 6 ou 7 ans maintenant. On avait pris l'engagement de baisser le taux de CO2 dans la nature, c'était bien de l'environnement. Et puis surtout pour les Mâconnais, lorsque vous me parlez que je ne fais rien pour les finances des Mâconnais, de baisser le coût du chauffage urbain de 30%. On est à 30%. Et ça, je regrette, mais c'est bien la gestion de notre ville telle que nous l'avons fait. On n'a rien fait non plus, bien évidemment, dans l'environnement, mais on a lancé des gros programmes quand même. On va à la Grivière lancer un grand programme de photovoltaïque. Ce n'est pas de l'environnement. C'est de l'environnement dans les communes socialistes ou communistes, mais ce n'est pas de l'environnement dans une commune de droite. C'est un investissement, là aussi, considérable, qui nous permettra d'ailleurs de pouvoir produire de l'hydrogène. Naturellement, ce n'est pas non plus de l'environnement. et de donner, et je salue le travail que fait Claude Canet, de donner à nos bus et à nos services de ramassage ordures ménagères le carburant dont ils ont besoin, qui serait un carburant totalement écologique puisqu'il est fabriqué avec l'électricité propre. Mais naturellement, ce n'est pas du tout effectivement de l'environnement. Et puis, on a fait aussi un certain nombre d'investissements considérables dans tous ces domaines-là. Naturellement aussi, les navettes gratuites, qui vont d'ailleurs être augmentées. Ce n'est pas de l'environnement que de donner des transports gratuits aux gens qui pourront venir dans la ville de Mâcon du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et c'est naturellement là aussi, pour nous, quelque chose d'extrêmement important, parce que nous y tenons, et nous le faisons, et nous le ferons, dans les limites financières que nous sommes données. Et puis vous me permettrez maintenant de remercier M. Ben Salah, parce qu'il est en train de préparer mon programme électoral de 2026. Alors mon bureau vous est ouvert, M. Ben Salah, quand vous voulez, venez. Ça m'évitera d'abord de réfléchir trop, je prendrai vos idées. Je les mettrai quand même à ma sauce, hein, parce que faut quand même, je veux bien l'ouverture, mais il faut quand même qu'il soit limité et dans des limites que je pourrais accepter. Mais merci de m'avoir donné quelques idées. Mais je peux quand même vous dire que dans un certain nombre de domaines, là aussi, nous allons investir. Alors on me dit, on ne fait rien pour la culture. Non, on ne fait strictement rien. Hervé Reynaud ne fait strictement rien. Sauf que, déjà rien que dans cette année, on va réparer la salle des Cordeliers, et qui c'est une activité culturelle. Et je remercie là. Je fais aparté le député, puisque le député a voté à l'Assemblée nationale le plan de relance et le DSIL. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'on aura 3 opérations sur 2021 qui vont être retenues sur le DSIL. Je n'ai pas tout à fait encore les montants, mais je sais par le préfet qu'ils seront retenus. Et je sais qu'on aura des grosses opérations dans le plan de relance. L'intérêt du plan de relance, c'est que c'est des subventions qui arriveront à la commune qui me permettront d'emprunter moins. Et là, c'est donc intéressant, c'est qu'avec le même nombre d'emprunts, ben, chacun comprendra qu'on pourra faire plus de choses. On ne fait rien dans la culture, non, on a simplement prévu la réhabilitation du musée. On est en train de se battre pour l'inscrire au contrat de plan État-Région. Petite somme, pas grand-chose pour la culture, 10 millions d'euros. On ne fait toujours rien sur la culture. On est en train d'inscrire au petit contrat de plan qui est en train de se faire avec le plan de relance la réhabilitation totale du vieux Saint-Vincent. Ce n'est pas grand-chose non plus, c'est 6 millions d'euros. Mais ça permet aussi en plein centre-ville d'avoir des activités touristiques et d'avoir des opérations importantes. On ne ferait non plus strictement rien dans le domaine de la culture. On ne va pas faire grand-chose. On va dépenser un peu plus d'1,7 million sur le théâtre pour le réhabiliter. Et merci encore aux députés pour la subvention qu'ils viennent nous trouver du ministère de la Culture. On ne fait rien, bien évidemment, non plus dans les quartiers. Ça, c'est bien connu. On vient de finir Marbé, une opération importante. Et je vais signer au mois de juin. Oui, je vous livre le scoop. On va signer au mois de juin le plan de rénovation de la Chanée. Oh, ce n'est pas grand-chose. C'est une petite dépense, mais ça tourne un peu plus de 92 millions d'euros. Enfin, une bagatelle. J'ose à peine en parler tellement les sommes sont ridicules ce soir au Conseil municipal. Et puis, on oublie effectivement tous les crédits que Mâcon Habitat va consacrer. Je remercie tant Claude Canet que maintenant Éric Maréchal des efforts qu'ils ont faits et qu'ils continuent de faire pour réhabiliter les logements. C'est une décision que nous avons prise d'investir beaucoup dans la réhabilitation des logements avec l'État, là encore une fois, et consacrer les excédents de Mâcon Habitat à la réhabilitation. C'est bien aussi l'amélioration de la qualité de vie de nos habitants. Et puis sur le plan de l'emploi, c'est évident, on ne fait rien. Le plan de l'emploi, on ne fait rien, mais aujourd'hui, entre les usines qui vont venir, celles qui s'agrandissent, qui existent, ou celles qui vont venir, c'est plus de 2000 emplois industriels directs qui vont être créés sur l'ensemble du site de Mâcon et des environs. Plus de 2000 emplois directs. Si vous pensez, mes chers collègues, que lorsqu'on crée un emploi direct, c'est 40% d'emplois indirects qui viennent, 2000 plus 40%, ça fait 800, ça fait autour de 2800 emplois qui vont être créés. Et j'ai demandé d'ailleurs à Pôle emploi, j'ai demandé au préfet, là aussi avec le soutien du député, on va avoir gain de cause, que le Pôle emploi se décentralise justement dans les quartiers pour permettre aux gens des quartiers qui voudront trouver de l'emploi, je dis bien qu'ils voudront trouver de l'emploi, de le trouver à Mâcon et de pouvoir travailler. Je ne donnerai pas ici la liste des entreprises, mais c'est quand même des entreprises qui sont extrêmement importantes, y compris au niveau national ou au niveau international. Donc c'est un bien recrutement qui va se faire effectivement là aussi dans les quartiers. Donc voilà ce que je veux vous dire de ce robe. Il est gageur d'avenir, puisqu'on garantit les grands équilibres, qu'on ne les modifie pas, qu'on ne les change pas. Mais en même temps, il est porteur d'espoir parce que derrière, il va y avoir des gros investissements qui vont être faits, investissements qui vont donner du travail à toutes les entreprises de travaux publics ou de génie civil qui vont travailler sur le site de Mâcon, ne les oublions pas, et puis naturellement, qui seront elles aussi gageurs d'espoir puisque ces investissements-là vont donner demain une qualité de vie aux Mâconnais, dans le centre-ville, bien sûr, avec l'opération cœur de ville, cœur de vie, et puis naturellement, avec les quartiers, les investissements qu'on va faire. dans le domaine, je terminerai par là, parce que c'est le domaine sportif, on ne fait rien non plus. Il va y avoir le gymnase des Perrières qui va être réhabilité. On a réhabilité un certain nombre d'équipements, on continuera de le faire. Donc, si vous voulez, au bout de 20 ans, je suis assez content, parce que j'ai une ville qui s'est modernisée, une ville qui est passée du statut de la belle endormie à une ville qui est maintenant, je crois, enviée, qui est une ville efficace, une ville dynamique, une ville qui fait dans l'écologie, mais une ville aussi qui sait mesurer ses moyens, qui se bat avec ses moyens, qui se bat avec une volonté politique, avec une volonté déterminée. Et c'est pour ça que ce soir, je peux vous le dire très, très calmement, mais j'ai été content de, que ce robe vous soit présenté de la manière où il a été présenté. Je remercie les services et Madame Robin. Et je vous demande simplement ce soir de me donner acte du débat qui a eu lieu. Et je vous en remercie.